Bonjour à tous, vous reconnaissez la musique, c'est l'oreille sur l'actu, votre rendez-vous actu en présence de la jeunesse dorée du journalisme. Avec moi en studio, vous les connaissez déjà, les pétillantes Lilou et Shana, ainsi que Hugo Pepiton, notre maestro à tous. Nous avons aussi Lilia Ozan au studio, qui est dans la même école que nous. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Donc avant de commencer, mon petit doigt me dit qu'une mésaventure vous est arrivée hier, Lilou, Shana et Lilia. Pouvez-vous nous raconter ?
Alors, qui c'est qui veut se lancer ?
Moi, je veux bien prendre la responsabilité de raconter cette histoire. Alors, pour commencer, nous marchions en direction de Compense Caffarelli avec ici présente Lilou et Lilia. Et en marchant aux environs de la place du Capitole et de la faculté du Capitole, l'Arsenal, nous avons été témoins d'une scène de violence conjugale, ou plutôt d'une femme et de son ex-mari qui la battait alors qu'elle était dans un foyer pour femmes battues. Et nous avons été témoins de cela, donc nous avons appelé les autorités compétentes, c'est-à-dire la police.
Qui ne sont jamais arrivées.
Et nous voulons, parce qu'en fait nous avons... Nous avons appelé et comme il n'y avait pas assez de disponibilité pour envoyer une voiture, du coup, personne n'est arrivé.
C'est même pas ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a appelé et qu'on m'a presque raccroché au nez pendant que je passais l'appel.
Ouais.
J'ai rappelé une deuxième fois après, quand le mari qui battait sa femme a décidé de partir, et on m'a dit que du coup c'était trop tard vu qu'il était déjà descendu et que l'urgence était passée. Donc bien sûr, on est allé voir les autorités compétentes aujourd'hui et on a posé main courante.
Ouais. Vous avez porté plainte vers 17h, c'est
ça ?
Non,
c'est une main courante. Et du coup, l'interlocutrice, au lieu de nous expliquer qu'il n'y avait pas de disponibilité, de nous aiguiller, de nous expliquer
la situation...
Celle
qui était au téléphone quand vous a appelé
exactement,
la police.
Elle nous a...
Snobé,
comme tu le dis si bien, Lilou. Et nous sommes sentis en détresse face à la situation.
Il y a peut-être des petits problèmes à la police.
Ouais, je trouve ça aberrant que la police n'ait pas d'ordre de priorité, puisqu'apparemment, le soir, sur la dorade, ils font bien leur travail pour mettre des amendes aux jeunes qui sont alcoolisés alors qu'ils sont censés être en semaine de révision. Ça, il y a la police pour faire leur travail. Alors que quand c'est des situations de dangerosité, et surtout qu'il y avait on n'a pas précisé qu'il y avait un enfant aussi qui était en danger. Et du coup, la personne...
Il y avait un bébé, c'est ça ?
Un, deux, trois, quatre ans. Donc, personnes en détresse, sachant que nous aussi, on était en bas, il aurait très bien pu s'en prendre à nous.
Oui, c'est ce que j'ai expliqué au commissariat, c'est-à-dire que quand la personne a descendu, l'urgence n'était pas finie, étant donné que nous, on se retrouvait face à lui. Donc, nous, ce qu'on a fait, bien sûr, quand on a compris que la police n'arriverait jamais, c'est qu'on est allé chercher des renforts. Ça a marché, c'est-à-dire que la personne est passée devant et a essayé de faire en sorte, comme si rien ne s'était passé. Mais bien sûr, on a compris que... Un homme dans un foyer de femmes battues, il avait rien à faire là et que c'était bien cet homme qui était en train de battre sa femme. On a noté la plaque d'immatriculation. Ouais. Et...
Un très bon réflexe que nous avons eu. D'ailleurs, si vous êtes témoin d'une scène comme cela, n'oubliez pas de prendre la plaque d'immatriculation.
Joli message donc.
Autre message, conseil de la policière qui nous a dit aujourd'hui qu'en gros, dans cette situation, si on voit que y a les urgences en gros, policières ne sont pas disponibles, appeler aussi les urgences, tout ce qui est...
Le 15, le 112...
Essayer un peu partout, il y en aura forcément un qui se déplacera et qui fera déplacer les autres. Et aussi, autre précision, on a eu quelqu'un tout à l'heure qui nous a parlé, qui nous a dit que la police, en gros, ne prendrait pas en compte notre plainte étant donné qu'on se plaignait d'elle. Et du coup, on nous a bien rappelé au commissariat que c'était un cliché. Et que du coup, il ne fallait pas penser comme ça et porter plainte et oser en parler.
Et que dès qu'il vous arrive un problème, osez porter plainte, comme la femme qui a osé porter plainte.
Merci Lilou, Shana et Lilia. On suivra évidemment l'affaire au fil des jours. Si vous avez plus de renseignements, on suivra ça. On va écouter une petite mélodie, je vais voir si vous connaissez. Alors, qu'est-ce que c'est que cela ?
Déjà, c'est de la musique classique.
Eh bien, plus précisément, c'est l'Ode à la joie, la 9e symphonie de Beethoven. Oui. Et c'est aussi l'hymne européen, ce qui fait qu'on va parler d'Europe. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, hier, je suis tombé sur une info pour le moins surprenante. Au début, bon, je pensais que c'était un article du Gorafi ou un extrait de Camoulox. Et non, c'est désormais officiel, Cindy Lopez rejoint la liste gilets jaunes de Francis Lalanne aux européennes. Cette ex-candidate de télé-réalité qui était quelque peu tombée dans l'oubli, bon, il faut se le dire, prépare son retour dans la lumière. L'intéressée s'explique. Elle dit « J'ai choisi la liste de Francis Lalanne parce que c'est la seule liste gilet jaune qui n'a pas de couleur politique, qui n'est pas un parti déguisé en gilet jaune. » On peut reconnaître qu'elle n'a pas forcément tort en voyant la course à la récupération politique qu'ont fait entre autres le Rassemblement National et la France Insoumise. Après, on peut se demander si Cindy Lopez a vraiment la carrure d'une députée européenne. Car dans ce cas-là, tout le monde peut le devenir. Est-ce qu'on arrive à une période où professionnels et amateurs arrivent au même niveau? Je pense pas. Ou du moins, il faudra attendre les élections. Mais ce mouvement apolitique, comme le dit Francis Lalanne, est-il si apolitique que ça? On peut partir du principe que si on se présente à une élection politique, on ne reste pas plus apolitique qu'un autre. Est-ce qu'un mouvement qui se représente aux élections européennes peut rester un mouvement et ne pas se transformer en parti politique pour continuer à subsister politiquement? C'est à débattre et je ne prétends en aucun cas avoir la solution. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est cette élection européenne qui nous réserve de bien belles surprises. Lilou, Chana, Lilia, vous en pensez quoi?
Alors moi, personnellement, j'ai pas encore regardé cette liste, mais en plus de me demander si cette liste est apolitique, je me demande d'abord est-ce qu'elle est apolitique des autres partis? Est-ce que c'est la réalité ou pas?
Eh bien, ils se considèrent comme mouvement gilet jaune, proche d'aucun parti, donc après c'est leur parole. Hein.
Et puis c'est quoi leur idée aussi, je me demande? Parce que tu parles beaucoup du fait que...
Bah après, c'est les idées des gilets jaunes, tout ce qu'ils revendiquent, donc c'est, un peu, c'est pas très condensé.
Qu'est-ce qu'ils revendiquent, les gilets jaunes? Parce qu'une liste, faut bien pour porter une liste, il faut porter des idées. Donc du coup, ils doivent bien avoir des idées sur cette liste.
Eh bien, il faudra leur demander, Lilou.
Par rapport à cela, je pense que... Enfin, je suis personne pour en juger, mais que la liste sera aussi désorganisée que le mouvement. Même si chaque personne est légitime d'exposer ses idées et de les faire entendre, je pense que c'est un peu...
Vous êtes sûre qu'elle est aussi désorganisée que le mouvement? Moi, il me semble qu'il y a ce parti, enfin, cette nouvelle liste, elle s'est rencontrée, elle a dû discuter, elle a dû porter des idées en priorité, sûrement.
J'espère, vu qu'il se présente aux européennes. Mais bon, pour l'instant, c'est le début. C'est le début du parti.
En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est pour les prochaines émissions sur les européennes que vous suivrez, vous, nos auditeurs, je vous propose de regarder plus en détail chaque parti pour vous aider à comprendre où voter.
Le message est passé, Lilou. On verra donc si on aura Francis Lalanne et Cindy Lopez au Parlement européen. Ça fera tout drôle, je pense. Lilou, je me tourne vers toi. Tu es allée dans la rue pour demander aux passants ce qu'ils allaient faire pour les européennes. On écoute ça.
Alors, je m'appelle Louison. Alors, Louison, pour qui iras-tu voter aux européennes?
Alors, j'en sais rien. Parce que je sais pas trop qui est-ce qui se présente. Après, je pense qu'il y a les partis politiques de base, on va dire. Mais ouais, je vais plus me référer aux partis plutôt qu'aux personnes, quoi.
Du coup, tu penses que tu vas aller voter?
Ouais, c'est important. Enfin, genre, on est obligé de voter.
Pourquoi c'est important?
Bah, il faut donner sa voix. C'est la seule façon qu'on peut... s'exprimer, on va dire, sur la vie en société. Donc, il faut bien le faire, quoi.
Tu comptes choisir comment pour voter?
Suivant ce qui se dit dans les médias, suivant les partis politiques, voilà.
Bon, ben, ça se voit qu'elle n'a pas encore vraiment l'idée de pour qui voter.
Bah oui, c'est surtout qu'à la base, j'étais partie pour faire un micro-trottoir sur un parti politique en particulier, celui qui est celui des Gilets jaunes. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des gens que j'interrogeais ne savaient même pas quel parti allait se proposer. Du coup, ben, je me suis dit que j'allais modifier ça et ça n'a pas donné ce qui était prévu.
Oui, on voit qu'il y a un manque d'informations.
Oui, les gens ne sont pas du tout informés sur ça.
Je vous propose donc une première pause musicale, et c'est toi, encore toi et toujours toi, ma Liloute, qui a choisi donc un morceau. Tu peux nous en parler?
Alors j'avais choisi de vous proposer de la K-pop et je suis allée partie totalement à l'opposé parce que Bastien ne voulait pas. Bon,
c'était voilà, mon petit droit de veto.
Donc du coup, j'ai choisi The Weeknd au hasard. The Weeknd, je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà.
The Weeknd, c'est ça.
Your man on the road, he doing promo. You say keep our business on the low low.
trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I'ma let you know and keep it simple. Tryna keep it up don't seem so simple. I just fucked two bitches before I saw you. And you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decaf. I'm just tryna live life for the moment. And all these motherfuckers wanna reload.
I only call you when it's half past. But the only time that I be by your side, I only love it when you touch me. Now feel me when I'm fucked up. That's a real me when I'm fucked up. That's a real me, yeah. I only call you when it's half past. But the only time I ever call you.
Merci Lilou, toujours un bol d'air frais ce The Weeknd. Alors Shana, je te laisse glisser sur ton sujet car tu vas nous parler de toboggan.
Oui, effectivement, c'est en Espagne le toboggan d'Europe le plus dangereux. Du coup, qui a fermé 24 heures après son inauguration. Et pour
ça
cela,
ça dure longtemps.
Oui, une journée. Et du coup, je suis partie dans la rue pour avoir l'avis de quelques passants. Bonjour, comment t'appelles-tu ?
Alexandro.
Que penses-tu du parc aquatique avec un toboggan qui a été fermé 24 heures après l'inauguration en Espagne ?
Mais je pense que c'est dommage qu'il ait fermé, puisque les gens qui aimaient bien les trucs à sensation, c'était bien pour eux, quoi.
Même si le toboggan ne répond pas aux normes européennes ?
Bah après, si chacun décide de faire ce qu'il veut, s'ils veulent y aller et qu'ils savent qu'il ne répond pas aux normes, c'est leur choix.
À leur risque et péril d'y aller.
Voilà, exactement.
C'est insolite. Le plus grand toboggan d'Europe a été inauguré dans la ville d'Estepeña, en Espagne, le jeudi 9 mai. Il a dû être fermé dès le lendemain. De nombreux usagers se sont blessés en l'utilisant. Ils se cognaient contre les parois avant d'être littéralement éjectés sur plusieurs mètres à l'arrivée. Pendant moins de 24 heures, la station balnéaire d'Estepeña, située sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne, a accueilli le toboggan le plus haut d'Europe. Malheureusement, le toboggan a très vite dû être fermé. Plusieurs usagers sont blessés en l'empruntant. La municipalité en a interdit l'accès, rapporte le quotidien britannique The Independent. Long de 38 mètres, avec une inclinaison de 32 degrés, il a attiré du monde pour son ouverture au public ce 9 mai. Il relie deux rues et doit permettre aux piétons de gagner 10 minutes de marche. Il est présenté par le conseil communal comme un moyen de transport adapté à tout âge. Des vidéos de la descente en toboggan sont vite devenues virales sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs arrivent sur la plage à une très grande vitesse. Certaines personnes ayant essayé ce toboggan ont eu des brûlures, des lésions et des contusions. Des photos ont été publiées sur les réseaux sociaux. La ville a indiqué ce 10 mai que le toboggan fermait le temps d'une révision complète. Mais elle a aussi rappelé qu'elle était indiquée comme utiliser le toboggan de manière appropriée pour éviter les risques, notamment en ne glissant pas en position couchée, mais plutôt en position assise sur les bras croisés. L'image largement diffusée par les réseaux sociaux correspond à un événement isolé puisque plus d'un millier d'utilisateurs ont testé ces infrastructures en faisant un usage approprié et donc sans incidence.
Donc si j'ai bien compris, le toboggan servait de sorte de pont ou de...
Exactement, c'est dans la station balnéaire.
Ça rejoignait deux points.
Exactement, ça rejoignait. Du coup, si les passants voulaient marcher, ils marchaient pendant 10 minutes.
S'ils avaient la flemme, ils prenaient un toboggan dangereux.
Exactement, c'est assez risqué et péril.
Insolite, comme tu l'as dit.
Du coup, le toboggan est donc interdit d'accès jusqu'à nouvel ordre, mais il a quand même coûté 28 000 euros.
Moi, ma question, c'est tout le monde pouvait le prendre, ce toboggan
Oui, tout le monde.
Même à 5 ans
Non, pas à 5 ans. Il fallait une limite de taille. Mais tout le monde, toutes les personnes qui étaient dans la station balnéaire pouvaient l'utiliser.
Comme toutes les attractions, quoi.
Exactement. Et du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que les gens passent leur amusement au mépris de leur sécurité?
Ouf, ça dépend quoi. Il y a des gens prudents, il y a des gens moins prudents. Les sports extrêmes... C'est de l'amusement, c'est des gens qui ne sont pas vraiment prudents, mais il y a aussi des gens qui font du bowling, quoi. Donc, je veux dire,
Moi, en soi, j'aime bien les sports extrêmes.
Est à noter, bien sûr, qu'il y a des personnes qui utilisaient le toboggan sans croiser les mains et en étant en position
toujours,
assise,
toujours.
Comme il est conseillé, plutôt qu'il était couché. Et du coup, c'est là où se passaient les accidents.
Personne ne le fait, ça.
Il y aura toujours des énergumènes pour contrer les lois.
Je ne sais pas des énergumènes, mais est-ce que quand tu vas à un toboggan... Je sais pas si on dit toboggan. Est-ce que quand tu vas à une attraction, tu mets toujours tes mains croisées? Personne fait ça.
Je suis toujours ce qui est indiqué, parce que j'ai peur de voler. Puis j'ai une petite phobie des attractions quand même.
Et nous avons l'exemple quand on ne suit pas les instructions. Voilà ce qui arrive, des contusions, des lésions et
Par exemple,
des accidents.
Un petit séjour à l'hôpital pour vacances.
Après 7 ans de natation, on a vu des vertes et des pas mûres. Je sais pas combien de personnes. Enfin, t'en as. Il rentrait le slip dans le pantalon pour aller plus vite. Faut être fou quand même.
Ah oui, c'est... Ah, je me souviens de cette technique. Oui, c'était une technique que tu utilisais dans les toboggans.
Oui, et puis alors que les lunettes et les bonnets étaient interdits pour éviter de se les rentrer dans l'œil, etc.
Ah, ça devait être sympa, ton cours de natation.
Mais c'est comme ça partout, hein.
Eh ben, merci, Shana.
De rien, Bastien.
C'était
insolite.
C'était insolite, comme tu le dis, exactement. Donc, moi, je vais vous parler d'un feuilleton effrayant qui continue aux États-Unis. Shannon nous avait parlé du Texas il y a quelques semaines, et le Texas est donc de l'avortement. Oui. On avait trouvé ça choquant. Ouvrez grand vos oreilles, car l'Alabama ne fait pas mieux. L'État états-unien vote la loi la plus répressive du pays en termes d'avortement. L'objectif des promoteurs du texte, nous indique Le Monde, et de se retrouver devant la Cour suprême des États-Unis pour la convaincre de revenir sur sa décision emblématique de 1973, Roe v. Wade, qui a reconnu le droit de la femme à avorter tant que le fœtus n'est pas viable. On connaît l'Alabama pour son côté conservateur, mais cette annonce est vue comme un sacré retour en arrière. Le projet de loi a été adopté début mai par la Chambre des représentants de l'État de l'Alabama. Nous avons donc recueilli des réactions dans les rues toulousaines.
Bonjour, comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle Jules.
Que penses-tu de l'IVG, l'avortement
Alors, moi, je trouve ça assez bien, parce que je trouve qu'à l'époque, des fois, c'était compliqué, genre, de se protéger. Et maintenant, on a toujours... voilà, je dis juste que, en gros, c'est, ça laisse une deuxième chance pour se rattraper si on fait une erreur. Par exemple, si on ne veut pas un enfant ou quoi que ce soit.
Est-ce que tu trouves que les femmes ont droit à cette éventualité et que, parce qu'en fait, il y a un État aux États-Unis, l'Alabama, qui avait passé une des lois les plus répressives.
Ben moi, je trouve que oui, les femmes, elles ont le droit d'avorter. C'est leur corps, c'est elles qui décident de faire ce qu'elles veulent. Donc voilà, je trouve ça tout à fait normal.
D'accord, merci.
Le texte est particulièrement répressif, mais 28 États américains ont introduit plus de 300 nouvelles règles, nous indique Le Monde, depuis le début de l'année, afin de limiter l'accès à l'avortement, selon un décompte de l'Institut Guttmacher qui défend le droit de la femme à l'IVG. Lilou, Shana, Lilia, je veux vos réactions maintenant.
Mais en deux semaines, je crois que c'est il y a deux semaines que nous avions parlé du Texas. Mmh. Mon avis n'a toujours pas changé. Je suis toujours pour l'IVG. C'est un droit que dont des femmes se sont battues pour l'obtenir, dont Simone Veil, entre autres. Et du coup, le fait de bâcler ce droit, qui est un droit de l'homme, bon, de la femme et de l'homme avec un grand H, c'est... ahurissant.
Lilou ?
Je suis totalement d'accord avec ça. Je n'ai pas vraiment d'avis, je répéterai ce que j'ai déjà dit.
Comment ça se fait qu'on voit aux États-Unis, donc, comme je vous ai indiqué, un véritable retour en arrière ? Vous pensez
c'est
que
simple,
c'est
comme tout. Hein. C'est, dès qu'il y a une avancée, ça ne veut pas dire qu'elle est acquise et faire attention à ce qu'elle ne recule pas.
C'est surtout le président qui est élu actuellement, ouais. Donald Trump. Il n'a pas vraiment fait des choses pour faire évoluer le statut de la femme vers le positivement.
Donald.
Du coup, il prône le sexisme dans son gouvernement et ça se ressent. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le droit à l'IVG est en train d'être remis en question alors que c'est un droit qui a été...
Surtout qu'on apprend que 28 États sur 50... ont régressé au niveau de l'IVG. Ils ont donné moins de liberté que le texte initial donc des années 70. Oui.
Mais même en France. Hein.
Ouais, ce sont des États qui sont conservateurs, donc à majorité républicaine, et les lois qui passent sont conservatrices.
Je vous indique aussi que le Kentucky et le Mississippi ont ainsi interdit les avortements dès que les battements du cœur du fœtus sont détectables, soit environ à la 6e semaine de grossesse.
Moi, je trouve ça scandaleux parce que ça veut dire que là, ce qu'ils disent, c'est que le fœtus a ses battements de cœur, c'est-à-dire le fœtus, il est censé être plus important que la vie de la femme qui le porte. Alors qu'en soi, c'est la vie de la femme là qui peut être détruite parce
oui,
que l'enfant,
côté moral.
Il peut ne... Oui, moralement, et même si c'est une question d'éthique, en gros, ça. Mais moi, je trouve que la femme, elle a le droit de disposer de son corps comme elle devrait avoir le droit de disposer de son corps. Et si elle n'a pas envie d'accueillir un enfant, un fœtus, il ne ressent pas de sentiments, il n'a pas de... Donc, non.
Et puis même, plus que ça, c'est une question de santé publique. Quand on pense que... cet enfant, quand il va grandir, il va être regretté. C'est pas sûr qu'il soit dans une famille correcte. Enfin, il vaut mieux que ça soit dans de bonnes conditions que... mieux vaut pas du tout que dans de mauvaises conditions pour un enfant triste.
Dans l'article du Monde, nous avons aussi le témoignage donc, de Bobby Singleton. C'est un membre démocrate donc, du Sénat. Et il vient de dire que vous venez de violer vous-même l'État de l'Alabama. Vous dites à ma fille, tu ne comptes pas dans l'État de l'Alabama. Les hommes peuvent te violer et tu auras ce bébé si tu tombes enceinte. A-t-il ajouté la voix parfois tremblante d'émotion. C'est véritable que ça touche aussi évidemment les hommes parce qu'on s'imagine aussi que c'est nos filles aussi qui peuvent ne plus pouvoir avorter dans ces états-là.
Exactement.
Ça devrait rassembler. Oui, il devrait avoir un mouvement de contestation et pour l'instant, j'ai pas l'impression de le voir.
Et pour en parler aussi des hommes dans cette situation, quand on fait un bébé, on est deux, une femme et un homme. Et du coup, l'homme a autant le droit de vouloir, de ne pas désirer l'enfant, s'il est en accord avec la mère, si les deux ont le même avis.
C'est la mère qui a le dernier mot, évidemment.
Oui, bien sûr, parce que c'est son corps.
Bien sûr.
Mais le père a aussi le droit de dire
après,
son
moi,
mot.
Perso, je pense que le père, étant donné qu'il le porte pas, il a aucun mot à dire. Hein, s'il a choisi de le garder ou pas, c'est pas son choix, lui.
Si, il a un mot à dire.
Il peut émettre son avis, bien sûr.
Mais si la femme décide de le garder...
Oui, mais c'est un enfant qui est fait à deux.
Il faut que ce soit en commun accord.
Si c'est un couple, bien sûr. Voilà. On part du principe.
Si l'homme, si elle décide de le garder, elle le gardera. C'est son corps.
Oui, évidemment.
Bien sûr.
Mais si elle décide de ne plus l'avoir, le mari peut aussi essayer de parler avec elle. Elle aura toujours le dernier mot, c'est certain. C'est son corps, c'est sa vie. Mais le mari a aussi le droit de donner son avis.
Ah oui. Mais enfin, ça sera toujours à la femme d'avoir le dernier mot dans tous
les
cas.
Oui, voilà, c'est pour ça qu'il y a une discussion qui doit se créer.
Ne remettons pas du tout ça en doute.
Eh bien, merci. Ah, je vois que nous sommes donc en compagnie donc de flûtistes dans la cour de la maison de l'Occitanie. Donc, si vous entendez des petits bruits de flûte, hein, ce n'est pas Lilia qui est en train qui s'ajoute à une nouvelle passion. Non, non, c'est dans la cour de la maison de l'Occitanie. Vous inquiétez pas. C'est un petit feu de troubadour. Alors maintenant, je vais vous faire une pause musicale, pas de flûte cette fois. Je vais vous parler donc de Lana Del Rey qui sortira son album, on ne sait pas encore, elle n'a pas annoncé de date, mais on estime que ça sera à la moitié de l'année, donc mi-2019, excusez-moi. Donc l'extrait est sorti l'année dernière, ça s'appelle Mariner's Apartment Complex et c'est signé par Lana Del Rey.
Took my sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the board, the lightning, the thunder, the kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. Who I've been is with you on these beaches. Your Venice bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus. My, 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 you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. You lose your way, just take my hand. To me again. Don't look too far right where you are. That's where I am. I'm your man. I'm your man. They mistook my kindness for weakness. I fucked up, I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can? Catch a wave and take in the sweetness. Think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am. And who I am is a big time believer that people can change, that you don't have to leave her when everyone's talking. Stand. Cause even in the dark I feel your resistance. You can see my heart burning in the distance. Baby, 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 I'm your man. Yeah.
c'était Lana Del Rey, Appartement Complexe. Donc je me tourne vers Lilou. Maintenant, on va revenir en France. Tu veux parler d'un sujet national, car c'est maintenant ce soir, résultat de Parcoursup.
Alors bonjour, moi aujourd'hui je vais vous parler de Parcoursup. Parcoursup c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, Parcoursup c'est la nouvelle plateforme qui remplace admission post-bac ou APB. Elle permet de faciliter l'accès aux études supérieures, aux élèves de terminale et étudiants en réorientation. Ce soir à 19h, elle devrait commencer à dévoiler les premières réponses aux vœux des quelques 9900 candidats. Pour en parler, je vous propose d'abord d'écouter un micro-trottoir.
Bonjour, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Hugo.
T'es étudiant?
Oui, je suis étudiant. Terminale en ce moment.
Ça marche. Et t'as prévu de faire des études dans quoi?
Dans la sécurité, parce que je suis un bac pro sécurité.
Et du coup, t'as confiance en Parcoursup ou pas?
Mais pas trop, parce qu'il y a, enfin, de ce que j'ai vu, il y a des personnes qui ont été prises, il y a des personnes qui n'ont pas été prises, c'est sélectif un petit peu. Donc non, c'est pas, pour moi, c'est pas bien, c'est pas un bon projet.
Est-ce que t'as l'impression que c'est sélectif selon les écoles, par exemple?
Oui, je pense.
Tu as les résultats bientôt?
Bientôt, oui, c'est en juillet, il me semble.
T'as hâte? Est-ce que tu penses que tu vas être pris?
Oui, je pense. Avec mes résultats, je pense.
Bon, bah, on te souhaite bonne chance.
Merci, c'est gentil.
Petite pensée à tous les élèves qui, à cette heure-ci, attendent avec impatience les résultats. À préciser, Parcoursup réunit uniquement les formations publiques ou privées sous contrat. Si vous êtes dans une école privée, vous échappez peut-être à ce système sympathique. En tout cas, on vous souhaite, si vous nous écoutez, de recevoir un oui dès maintenant. Je rappelle que l'application peut donner plusieurs réponses, comme oui, non ou en attente. Elle peut même vous accepter sous certaines conditions. Si vous n'avez pas un oui dès le départ, ne vous inquiétez pas. La plateforme est actualisée chaque jour avant de votre première journée de classe, les propositions refusées par des candidats étant immédiatement réintroduites dans le système pour être proposées à d'autres. Vous ne devriez normalement ne pas être laissé de côté. Petit rappel, l'application avait fait grand débat l'année dernière. Elle doit donc faire ses preuves aujourd'hui. Alors, Shana Bastien, j'espère que ça vous rappelle de bons souvenirs.
Eh bien, personnellement, je ne l'ai pas utilisé l'année dernière, mais je sais qu'il y a beaucoup de potes qui ont galéré pour Parcoursup, et il y en a encore, j'ai des amis qui n'ont toujours rien.
Mais je pense qu'on est très bien placés pour en parler, vu que nous avons été les premiers, les initiateurs de cette plateforme, qui est Parcoursup. Et oui, bon, nous sommes à l'IAJT, donc du coup c'est une école privée qui n'est pas sur Parcoursup, donc on n'a pas eu à s'en occuper. Mais je sais aussi que j'ai des amis qui n'ont toujours rien à l'heure actuelle.
Copieuse.
Mais il y avait beaucoup de faiblesses dans
tout le monde est dans ce cas-là.
Ah, il y a eu beaucoup de, ouais.
Beaucoup de gens
de mauvaise progression informatique.
Exactement. Parmi les réclamations, enfin les erreurs qui étaient dites, il y avait par exemple le fait que selon ton école, là où tu avais eu ton bac et tes résultats, bah même si tu avais une note égale au bac à un autre élève d'une meilleure école, tu pouvais être désavantagé.
Mais en fait, ça c'était sur le suivi scolaire qu'on était sur les sur les bulletins de première et de terminale, puisque les Parcoursup se faisait avant les notes du bac. Du coup, bac ne comptait pas. Le bac ne compte pas sur Parcoursup.
Après, il y a tout l'algorithme de Parcoursup, on ne le connaît pas.
Hein. Oui, c'est ça.
Il y a plein de parties cachées et qui sont des sélections, des fois, je pense que ce n'est pas très légal. Mais voilà, on ne le saura pas, on ne saura jamais. Vous étudiez vraiment le code source de l'algorithme, mais bon, c'est très compliqué puisque c'est détenu par l'État, donc on est un peu dans le flou. On verra évidemment comment ça avance et je téléphonerai à mes amis de terminale voir s'ils ont trouvé ce soir leur petit bonheur. Lilia, un mot?
Oui, pour ajouter, moi j'ai passé mon bac il y a 2 ans, du coup j'ai pas connu ça, mais j'ai connu APB.
Ah oui.
Et justement, APB, bah, c'était bien mieux que maintenant parce que tout le monde y trouvait son compte. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont changé leur manière de faire leur algorithme.
Mais je pense qu'ils voulaient réduire le nombre de choix. Oui. Il y avait combien de choix déjà sur APB?
Plus d'une dizaine, je me rappelle.
Et nous, c'était 5 à peu près, je crois, au plus. Un peu.
Moi, il me semble qu'on pouvait en mettre 10.
Ouais, une dizaine.
Mais APB, maximum. Je crois que c'était une vingtaine ou une trentaine.
Ouais, oui, plus ouais. D'une. Je sais que c'était plus d'une dizaine, mais moi, j'ai fait le premier vœu que j'ai fait, j'ai été prise. Et mais oui, c'est vrai que tout le monde trouvait son compte. Il y avait quelques laissés pour compte, mais ils trouvaient un moyen de les placer quelque part. Mais majoritairement, toutes les personnes qui postulaient pour les premiers vœux étaient prises. Et il y avait beaucoup moins de polémiques et de problèmes par rapport à ça.
Il y a quelque chose qui a été fait avec Parcoursup pour rebondir à ce que disait Lilia. Nous, on avait 5 ou 10 choix, mais je crois que c'était plus 5 choix, avec des sous-vœux. Mais les sous-vœux, c'était selon l'établissement. C'était par exemple droit dans certaines facultés.
Pas du tout.
La pastille verte, en fait, par rapport à tes prioritaires, si tu demandes les choses dans ton département ou dans ta région.
Oui, mais ça, c'est toujours le cas avec Parcoursup.
Oui,
par exemple, moi, je sais que j'avais demandé une fac de lettres à Toulouse. J'ai pas été... Bon, c'était des choix par défaut parce que j'avais déjà mon école, mais j'ai demandé une fac de lettres à Toulouse, ça a été accepté. J'ai demandé une fac de lettres à Bordeaux, ça a été accepté. Mais aussi, j'ai demandé aussi une école de cirque, dont je ne sais plus quel bled et tout, pour justement montrer que mon Parcoursup, des fois, il ne lisait pas vraiment ce qu'il y avait écrit dessus. Et j'avais écrit une lettre de motivation, mais totalement bidon. Et j'ai été pris dans cette école de cirque.
Bastien, il faut que tu saches que quand tu postules pour une faculté, on est pris, si ce n'est pas contingenté, s'il n'y a pas des places requises, on est automatiquement pris.
Après, oui, mais l'école de cirque, il y a des places.
On veut en venir, Bastien, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai été acceptée pour tous mes choix. Bon, j'avais pris des choix généraux du style des universités, etc. Mais on nous a pris la tête pour faire des lettres de motivation de je ne sais pas combien.
Qui ne liront
qui
jamais.
Pas et qui n'ont jamais qui été lues. Enfin, j'en ai écrit aucune et j'ai été prise partout.
Puis aussi, moi, j'avais pas une moyenne extraordinaire, je devais avoir 12, un truc comme ça. Et j'ai des amis qui étaient à 14, ils ont demandé les mêmes trucs que moi, ils n'ont pas eu. Du coup, ça veut dire qu'il y a un véritable problème.
Donc, pourquoi on nous demande une lettre de motivation quand on sait qu'elle ne va servir à rien ?
Eh bien, je sais pas, faut demander, Lilou. Tu vas toquer à la porte et tu leur demandes.
Ouais, j'ai prévu de faire ça dans ma soirée.
Le système de sélection reste assez flou. J'espère que pour les années prochaines, ce sera beaucoup mieux.
Oui, parce que j'ai l'impression que depuis l'année dernière, il n'y a pas trop de changements qui ont été faits. Hein.
Non, mais les changements étaient plutôt négatifs de ce qu'on a constaté. Je ne vois pas ce qu'ils ont voulu changer sur l'ancien. Mais Lilia, justement, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a changé ?
Concrètement,
il y avait quoi dans APB qui avait besoin d'être changé en fait ?
Moi personnellement, après, j'ai pas forcément trouvé des défauts parce que j'ai demandé, mon premier vœu, c'était la fac... d'ECOG à Toulouse, il me semble qu'elle était contingentée et j'ai été prise, donc j'ai eu mon premier vœu. Après j'avais la moyenne, enfin j'avais les notes pour, etc., donc il y a pas eu de problème. Et en plus de ça, c'était dans mon, je venais de Montauban, du coup j'étais prioritaire vu que c'était ma région. Donc après ça, même toutes les personnes que je connais qui connaissais qui étaient dans mon lycée, il y avait eu aucun problème, dans le sens où elles ont misé sur les facs qui allaient les prendre parce qu'ils ont fait en fonction de leurs compétences et de ce qu'ils voulaient faire, de leur moyenne. Je pense que c'était vraiment le bon... Après, peut-être qu'il y avait... Ils prenaient beaucoup plus, c'était plus facile. On ne devait pas faire de lettre de motivation, sauf quand c'était contingenté, quand il y avait des places limitées. Mais sinon, on n'était pas obligé de faire ça. Après, je trouvais ça bien.
Moi, par exemple, pour Parcoursup l'année dernière... J'ai des amis qui avaient 19 de moyenne générale dans un lycée plutôt médiocre, enfin qui était connu pour pas être super bien réputé. Et elles avaient, tous les professeurs en cours leur avaient dit de demander des super bonnes écoles. Et du coup, on leur avait fait miroiter cette idée de super bonnes écoles, etc. Mais elles ont été super déçues quand elles ont vu qu'aucune n'avait eu leur choix accepté.
Après, pour les écoles, par exemple, les écoles d'ingénieurs ou les prépas, genre par exemple Saint-Sernin à Toulouse ou les trucs un peu prestigieux, c'est vrai que la difficulté par rapport... Moi, j'ai été dans une fac, du coup, c'est pas la même chose. Mais quand on va dans ces trucs un peu beaucoup plus sélectifs, t'es en concurrence, en fait, vu qu'il y a des places. Il doit y avoir au moins une centaine de places, une prépa. Donc, t'es mis en concurrence avec toutes les autres personnes de la région.
C'est traitement...
Et du coup, il faut vraiment être le meilleur.
Les profs sont pas assez bien renseignés de base pour déjà nous renseigner, nous, sur notre orientation.
Non, ils connaissent pas. Ouais. C'est un nouveau truc et il n'y a pas eu d'explication. Ils ont découvert en même temps que nous, en fait.
Ouais, exactement.
Il y avait juste une fiche explicative, mais...
Aucune formation.
Oui, totalement. Eh bien, merci beaucoup, les filles, pour ce débat. C'était très intéressant. C'est la fin, déjà, de notre émission « L'oreille sur l'actu ». On se retrouve évidemment. On se retrouve quand ?
Bientôt.
Bientôt. On n'a pas encore défini le jour. Vendredi soir. Ben voilà, vendredi soir, vous prenez votre rendez-vous, vous prenez votre petit café de thé et.
votre petit café et votre thé.
Voilà, merci. Et vous vous posez sur Esprit Occitanie pour nous écouter. Merci et au revoir à tout le monde.
Au revoir. Au revoir.